Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonsoir à tous. C'est bientôt l'heure des poignées de main devant les objectifs et les caméras du monde entier. Emmanuel Macron s'apprête à recevoir les grands leaders de la planète. C'est le véritable coup d'envoi du G7 à Biarritz. Un peu plus tôt, à la mi-journée, le président de la République s'est adressé aux Français à la télévision. Il a détaillé les grands sujets qui vont être débattus par les dirigeants des 7 pays participants. Eux ne croient pas en ce sommet. Plusieurs milliers de manifestants anti-G7 se sont rassemblés dans le calme à Hendaye. C'était la seule mobilisation autorisée du week-end. En Allemagne, face à la montée des partis anti-migrants, une manifestation contre l'extrême droite s'est déroulée aujourd'hui dans la ville de Dresde, en Saxe. Une mobilisation à une semaine seulement d'élections très attendues dans cette région de l'ex-RDA. Et puis cette question, qui sont les soldats oubliés de la Nueve, les premiers libérateurs de Paris en août 1944? C'était il y a 75 ans, on vous raconte leur histoire à la fin de ce journal. Les dirigeants du G7 se retrouvent donc ce soir à Biarritz sous les yeux du monde entier. Un sommet qui se déroule sous haute pression. L'opinion mondiale attend des solutions concrètes aux crises secouant la planète. Guerre commerciale, nucléaire iranien, Brexit ou encore la question de l'environnement avec en toile de fond les incendies qui ravagent l'Amazonie. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Hugo.
Vous êtes en direct de Biarritz pour France Culture. Alors sur tous ces grands sujets, Emmanuel Macron et Donald Trump ont pris un peu d'avance, Bertrand, car ce n'était pas prévu. Les deux hommes ont déjeuné en tête à tête tout à l'heure.
Oui, le déjeuner improvisé ou présenté comme tel a eu lieu dès l'arrivée de Donald Trump. Les deux présidents se sont installés sur l'une des terrasses de l'hôtel du Palais où résident les chefs d'État ou de gouvernement du G7, ainsi qu'une partie de leur délégation. Un repas face à face, Emmanuel Macron et son invité assis seuls à une table sous un parasol blanc. Ce format en tête à tête est, semble-t-il, assez inhabituel pour Trump. L'Élysée insiste également sur la durée de l'entretien, 2 heures. La France y voit un marqueur de la bonne relation personnelle entre les deux dirigeants. C'est aussi lié, dit-on, à l'ampleur des sujets à traiter, avec la volonté d'aller au fond du débat, notamment sur l'Iran. Emmanuel Macron veut créer les conditions d'une désescalade. Donald Trump a indiqué vouloir un accord. L'idée d'un retour à l'exportation du pétrole iranien, si Téhéran respecte à nouveau le traité sur le nucléaire, ferait son chemin. Autre sujet sensible, la taxation voulue par la France des géants du numérique. Là encore, le président français entend diminuer la pression. Sa politique n'est pas anti-américaine, dit-il, mais les réalités doivent être prises en compte. Le ministre français de l'économie et le secrétaire américain au Trésor vont en discuter dans les heures qui viennent.
Et justement, après ce déjeuner, Bertrand, place au dîner ce soir à Biarritz avec, cette fois-ci autour de la table, la présence de tous les participants au G7.
Un dîner même exclusivement G7, c'est-à-dire que seuls les membres de ce club de pays riches y sont conviés et pas les dirigeants des autres nations invités par Emmanuel Macron dans le but d'ouvrir le sommet à des États émergents ou en voie de développement. Les affaires du monde pourront y être discutées sous une pergola installée pour la circonstance au pied du phare de Biarritz. Entre la pipérade, le thon aux pommes de terre et le gâteau basque, les 7 pourront au moins acter ce qui les sépare. Sur le climat, par exemple, il sera bien difficile de convertir Donald Trump. Et vous savez que même l'Allemagne ne veut pas remettre en cause l'accord Union européenne-Mercosur pour faire pression sur le gouvernement brésilien et sa politique de déforestation en Amazonie. Ce soir, ce sera aussi le premier dîner international de Boris Johnson dans ses nouveaux habits de Premier ministre britannique. Il sera forcément observé.
Bertrand Galichet en direct de Biarritz pour France Culture. Et si durant ce sommet, on vient de l'entendre, les dossiers épineux sont nombreux et les débats s'annoncent houleux, Emmanuel Macron assure que cette réunion, ce sommet est utile. C'est ce qu'a dit le président de la République à la mi-journée lors d'une déclaration aux Français à la télévision. Un exercice aussi pédagogique que politique, Rosalie Lafarge.
Le ton a changé, plus proche, plus direct. Surtout, le président est à Biarritz pour les Français, il le dit et le répète.
J'ai 2 objectifs en votre nom durant ces quelques jours. Au fond, qu'est-ce que je défendrai en votre nom? En tout cas, en votre nom, je suis très fier d'accueillir ce G7. Alors je vous promets en votre nom de faire le maximum.
Ce G7, même s'il se tient dans un palace ultra surveillé par les forces de l'ordre et coupé du reste de la ville, nous concerne, c'est ça le message du président. Les décisions qu'il peut s'y prendre auront des conséquences sur nos vies, nos quotidiens.
Si demain l'Iran se dote de l'arme nucléaire, nous serons directement concernés. Si le Moyen-Orient s'embrase, nous serons touchés. Si nous n'arrivons pas à régler la situation en Libye, nous continuerons de subir collectivement ce scandale des migrations à travers la Méditerranée et le déséquilibre de toute une partie de l'Afrique.
Emmanuel Macron appelle ainsi ses partenaires à agir ensemble pour résoudre les grands conflits, pour éviter les guerres commerciales, mais aussi évidemment pour lutter contre le changement climatique.
Au cœur de ce G7, il y aura le sujet du climat. Nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi, ici à Biarritz, et à l'appel de la forêt qui brûle, aujourd'hui en Amazonie. De manière là aussi très concrète. Et donc nous allons agir.
Mais le président le sait, il ne sera pas facile de convaincre tout le monde.
Nous ne réussirons sans doute pas sur tout. Et ne m'en voulez pas si parfois nous n'y arrivons pas. La France doit faire le maximum, mais nous ne pouvons pas tout seul.
Emmanuel Macron s'engage à faire le maximum et promet de rendre compte régulièrement des avancées comme des blocages pendant la durée du sommet, jusqu'au bilan pour lequel il donne rendez-vous aux Français lundi en fin de journée.
Difficile de convaincre en effet, et à commencer par l'opposition politique française. À gauche par exemple, Adrien Quatennens estime que le discours d'Emmanuel Macron fait, je cite, un aveu d'échec avant même la tenue du sommet, car pour le député de la France Insoumise, Emmanuel Macron ne pourra pas tenir ses engagements. Quant à la droite, c'est le député LR Damien Abad qui a réagi tout à l'heure après l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était sur France Info.
C'est un catalogue de bonnes intentions tout à fait louable et que chacune et chacun d'entre nous peut s'y retrouver. Moi, je souhaite que la France réussisse et je souhaite que le G7 soit un succès. Mais j'ai un doute, et notre doute, il vient toujours de l'arrogance présidentielle, du sentiment parfois qu'on a un peu un président de la République qui fait cavalier seul, qui veut imposer les sujets, qui veut imposer les conclusions, qui veut imposer les thèmes, sans avoir pris au préalable des concertations avec les autres chefs d'État. Et donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on aboutisse à des résultats. On ne veut pas un G7 pour rien. On ne veut pas un G7 fait de communication, de coups de menton et de petites phrases.
Eux aussi appellent de leur vœu à la tenue d'un sommet d'un tout autre genre. Les anti-G7 ont manifesté à Hendaye sans aucun incident notable. C'était le premier objectif des organisateurs. Environ 15 000 personnes se seraient rassemblées selon les organisations altermondialistes. À Hendaye, le reportage de Mathilde Dehémy.
Slogan anticapitaliste et anti-G7 en basque, effigie des chefs d'État tournés en dérision, les manifestants ont aussi largement moqué le dernier discours écologiste d'Emmanuel Macron comme Virginie.
Là on est pris dans l'urgence, il faut faire des choses et c'est dommage parce que du coup dans l'urgence on n'a pas forcément le temps de construire de façon positive et raisonnée les alternatives qu'on pourrait imaginer tout de suite. Ce qui devrait être fait en premier, c'est de dire la vérité. Si les gens, tous, étaient au courant de ce qui se passe, ils voudraient d'eux-mêmes des mesures beaucoup plus fortes pour avancer réellement.
Dans la main de Patrick, un panneau « Macron, président des pollueurs ». Il représente les opposants au projet de Montagne d'Or en Guyane.
On sait qu'il a des belles paroles, mais dont les actes ne correspondent pas du tout à ce qu'il dit. En Guyane, il y a 360 000 hectares de forêts primaires qui sont livrés à l'extractivisme minier pour de l'or dont on n'a rien à faire.
L'Amazonie qui brûle, le Mercosur, accord de libre-échange entre Sud-Américains et Européens, font partie des discussions du G7. Mais attention à ces discours, prévient Aurélie Trouvé, porte-parole de la centaine d'associations du contre-sommet.
Il est en train de détourner l'attention sur le Mercosur, alors que dans ces semaines se joue un autre accord liberticide entre l'Union européenne et le Canada. Ce sera néfaste pour le climat. Or, Emmanuel Macron s'assoit dessus et continue à appuyer cet accord-là.
Des associations qui ont travaillé ensemble pour réduire les inégalités fiscales et sociales, matière à une rentrée très militante, disent-elles.
Et on l'entend donc dans ce reportage de Mathilde Dehémy, l'enjeu climatique est au cœur des préoccupations. On apprend ce soir que des centaines de nouveaux incendies de forêt font rage à travers le Brésil. Les dernières données officielles sont donc à la hausse et indiquent désormais que plus de 78 000 incendies ont été enregistrés depuis janvier. C'est un record depuis 2013. De son côté, le président brésilien Jair Bolsonaro a décidé d'envoyer l'armée pour lutter contre les feux. À Hong Kong, une nouvelle fois, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants pro-démocratie. Après avoir défilé dans les rues, des milliers de manifestants vêtus de noir et portant pour beaucoup des masques à gaz et des casques de chantier ont été bloqués par des dizaines de policiers anti-émeutes. Depuis près de 3 mois, ces mobilisations quasi quotidiennes sont organisées pour dénoncer notamment le recul des libertés et l'ingérence jugée grandissante de Pékin. Il est en prison, mais il reste candidat. Le magnat des médias tunisien Nabil Karaoui ne renonce pas à l'élection présidentielle du mois prochain en dépit de son arrestation hier. L'homme d'affaires a été placé en détention sur ordre de la justice. La justice qui le soupçonne de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Son parti estime que son arrestation est une manœuvre pour l'éliminer de la course à la présidence. Cette arrestation a en tout cas fait monter la tension dans le pays à seulement 3 semaines du premier tour. Ils disent non à l'extrême droite. Des milliers milliers d'Allemands se sont rassemblés aujourd'hui à Dresde, en Saxe, pour une grande manifestation contre le racisme à une semaine d'élections locales très tendues et qui s'annonce serrée. Les sondages prévoient même un succès électoral pour le parti anti-migrant AFD le 1er septembre prochain. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir.
Ludovic, vous êtes notre correspondant en Allemagne. Vous êtes visiblement dans le cortège encore à Dresde. Comment ça s'est passé cet après-midi?
Ce collectif s'appelle Unteilbar. En allemand, ça veut dire indivisible. Il réunit plus de 400 organisations et cet après-midi, 35 000 personnes ont défilé selon les organisateurs. Ils sont maintenant devant une énorme scène pour assister à un concert. Ils ont défilé sous une même bannière pour dire non à l'extrême droite, car ici, à Dresde et plus largement dans cette région de Saxe, on vote dans une semaine. On va voter aussi le même jour dans la région voisine du Brandebourg et dans ces deux Länder, le parti d'extrême droite AFD, l'alternative pour l'Allemagne, est annoncé au-dessus des 25% des voix, en première ou en deuxième position, selon les sondages. Le parti est un peu moins fort ici à Dresde. C'est une grande ville de 500 000 habitants, c'est une ville universitaire. Et donc, dans cette manifestation, cet après-midi, beaucoup de jeunes, comme Laurine, 26 ans.
L'AFD n'est pas seulement raciste ou sexiste, c'est aussi un parti dont les électeurs n'ont que faire de la protection du climat. C'est comme si ça ne les concernait pas. Ça signifie par exemple qu'ils ne veulent pas arrêter l'exploitation du charbon ici en Saxe et ses immenses centrales à charbon.
C'est vrai que dans le cortège, il était beaucoup question de lutter contre l'extrême droite, mais aussi beaucoup question d'environnement, car parmi toute cette jeunesse allemande, beaucoup participent aux grèves scolaires du vendredi, le mouvement Fridays for Future, où ils ont rejoint un autre mouvement, Extinction Rebellion. Ils ont pour point commun la défense de l'environnement. Ces mouvements ont pris beaucoup de place en Allemagne en l'espace de quelques mois. Ça s'est traduit aux dernières européennes par plus de 20% des voix pour les Verts allemands. Nico a 26 ans et il a fait la route depuis Munich, en Bavière, à 500 km de là.
Je pense qu'il se passe quelque chose dans le pays, que la jeunesse est en train de se lever. On a le sentiment que les politiques ne nous écoutent pas, alors que nos existences sont menacées et qu'on est donc conduit à se battre pour défendre nos vies. Je crois que la politisation de ces jeunes va se poursuivre.
Alors, politisation de ces jeunes, oui, on verra dimanche prochain, le 1er septembre, comment se traduit dans les urnes cet appel de ce collectif Unteilbar, de ces indivisibles à faire barrage à l'extrême droite, ici en Saxe et dans le Brandebourg.
En direct de Dresde, en Allemagne, notre correspondant Ludovic Piétenu pour France Culture. La question des migrants et des réfugiés, sujet sensible donc en Allemagne, sensible aussi en France. On apprend que le parquet de Montauban a ouvert la semaine dernière une enquête après des menaces de mort proférées contre un maire du Tarn-et-Garonne. Jacques Tabarly, maire de Sept-Fonds, menacé pour avoir accueilli 8 familles yézidis durant l'été. Des menaces prononcées sur les réseaux sociaux. Les gendarmes tentent maintenant de retrouver l'auteur, Clémence Fuléda.
Cet internaute qui a écrit un commentaire sur Facebook sous un article de la Dépêche du Midi, un poste où il disait vouloir aller brûler Jacques Tabarly, le maire de Sept-Fonds, le jour où celui-ci accueillait les familles yézidis. 8 familles, des mères et leurs enfants, sont hébergées dans la petite commune de 2200 habitants depuis la semaine dernière. Le suspect serait originaire du Tarn-et-Garonne, mais il n'a pas été identifié ni arrêté. Jacques Tabarly, lui, a porté plainte. Quand nous l'avions rencontré la semaine dernière, il nous avait confié qu'il s'attendait à un retour de bâton dans son village, où il est maire depuis 19 ans et où près de 46% des électeurs ont voté Front National au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 12 points de plus que le score national de Marine Le Pen. Aujourd'hui, il réaffirme sa fierté d'avoir accueilli des réfugiés persécutés par Daesh en Irak et assure qu'il est soutenu par une grande partie de la population qui amène des couvertures et de la nourriture pour ses familles. De son côté, le maire de Caussade, Gérard Hébrard, qui a accueilli lui 3 familles, nous indique n'avoir reçu aucune menace.
Les explications de Clémence Fuléda pour France Culture. Voici maintenant l'histoire de soldats que l'on a oubliés, des républicains espagnols, anarchistes pour la plupart, qui ont permis la libération de Paris. Le 24 août 1944, il y a 75 ans tout juste, ce sont eux qui, en premier, ont pénétré dans les rues de la capitale. Une grande fresque en leur honneur a été dévoilée aujourd'hui dans le 13e arrondissement. Ces soldats faisaient partie de la Nueve, une compagnie de la 2e DB du général Leclerc. Ramon Pino est membre de l'association du 24 août 1944. Pour France Culture, il revient sur la très lente reconnaissance de ces soldats. Pendant longtemps, dit-il, leur rôle dans la libération de Paris est resté tabou.
Ça a été absolument tabou. Il fallait, pour l'imagerie populaire, que la France ait été libérée par des Français. Et ça a été d'abord bien martelé par De Gaulle, par les gaullistes et par les communistes aussi, hein, il faut le dire. Il fallait que ça soit une libération franco-française, absolument. C'était un argument politique, effectivement, et il faut se resituer un peu dans le contexte. Au lendemain de la libération de Paris, les nouvelles forces qui occupent le devant de la scène politique, ce sont les gaullistes et les communistes. Et on ne sait pas, à ce moment-là, qui va l'emporter. De Gaulle était très soucieux, justement, de faire libérer Paris. Quand il a vu l'ordre de reddition du gouverneur allemand à Paris, qu'à côté de la signature du général Leclerc, il y avait la signature de Roll Tanguy, qui était membre du Parti communiste, il a été furieux et il a engueulé Leclerc, qui avait permis qu'il y ait la signature d'un gouvernement communiste. Donc on est à un moment de bascule pour le devenir de la France. Le gouvernement qui va être formé comportera des communistes et des gaullistes.
Et vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr l'entretien en intégralité de Ramon Pinault, entretien réalisé par Éric Chavroux. La météo, demain, il se fera beau et chaud. Les températures à prévoir de 20 degrés sur la pointe bretonne à 33 degrés dans le Gard. C'est la fin de ce journal, une édition préparée par Brice Garcia avec Clément Daté à la réalisation.